Quand on parle de cancer, ça nous effraie. Quand on parle de cancer du sein, les femmes, c'est une réalité. Et il faut quoi pour prévenir le cancer du sein? Il faut vérifier si vous l'avez. Comment on fait ça? C'est là que... Est-ce qu'on l'a détecté à temps? Est-ce qu'on le détecte de la bonne façon? Tout est là. L'enjeu du cancer du sein chez les femmes est carrément lié à la détection. Et là, ben, au niveau de la recherche, on nous apprend que du côté de l'université, l'Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec, on a fait une découverte qui va peut-être nous aider à mieux prévenir le cancer du sein. Du moins, on va être capable de prédire les risques d'avoir un cancer du sein avec un simple test de salive. Moi, je lis ça, bravo. Avec nous pour en parler, Jacques Simard, il est professeur titulaire au département de médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Comment allez-vous, M. Simard?
Oui, bonjour, M. Langevin, ça va très bien.
Ben bravo, expliquez-nous. À mon avis, c'est une sacrée bonne nouvelle pour toutes les femmes qui peuvent, un jour ou l'autre, contracter le cancer du sein. Quelle est cette découverte-là?
C'est une découverte qu'on a faite avec mes collègues sur la scène internationale, qui regroupait presque une centaine d'équipes, mais dans laquelle je joue un rôle de premier plan. On sait depuis longtemps qu'on pouvait identifier des femmes qui avaient un risque élevé. Par exemple, dans le milieu des années 90, on avait trouvé quelques gènes, les gènes BRCA1, BRCA2. On a entendu parler de l'histoire d'Angelina Jolie. Mm-hmm. Ces gènes-là, qui augmentaient le risque de cancer du sein, l'augmentaient substantiellement, mais c'était quand même des mutations rares. Donc, on retrouve peut-être chez une femme sur 400 et on les retrouve souvent chez des femmes ayant une histoire familiale où il y a plusieurs sœurs ou mères qui ont eu un cancer du sein avant 50 ans. Au cours des 10 dernières années, il y a eu des percées technologiques qui nous ont permis d'analyser de façon globale l'ensemble de notre ADN, qu'on appelle le génome. Et là, ça nous a permis, grâce à un consortium qu'on a mis sur pied, qui est piloté par mon collègue de l'Université de Cambridge en Angleterre, on a pu analyser près de 10 millions de marqueurs génétiques qui sont beaucoup plus communs, des petites variations, et on a pu démontrer une signature. Donc, il y a 313 marqueurs qui identifient de façon assez précise le risque génétique qu'une femme peut avoir de développer un cancer du sein éventuellement. Donc, cette étude-là a été effectuée chez près de 170 000 femmes et par la suite, on l'a validée, comme les règles de l'art dans le domaine, chez plus de 220 000 femmes. Donc ça, c'était la première étape qui était essentielle, ouais. C'était de déterminer cette empreinte génétique-là. L'autre découverte importante, c'est d'avoir un outil mathématique qui est inclus dans un logiciel qui va prendre cette information-là, calculer cette information-là de cette signature génomique-là, parce qu'on doit comprendre que certaines femmes vont avoir à la fois des marqueurs qui augmentent le risque, mais une combinaison de marqueurs qui diminue le risque, un effet protecteur. Donc, il y a une certaine complexité. Mais ce modèle-là nous permet de prendre en considération cette information-là et surtout de la coupler et la combiner aux autres facteurs de risque reconnus, comme l'histoire familiale, les facteurs hormonaux, certaines caractéristiques physiques et aussi certaines habitudes de vie. Donc ça, c'est vraiment important, c'est essentiel. C'est l'outil qui va nous permettre de donner un risque personnalisé à la femme et de lui dire dans quelle catégorie de risque elle se retrouve.
Alors ça, c'est important parce que c'est ce que les femmes veulent savoir. Est-ce que je suis à risque de développer ce cancer-là? Sans rien enlever, il y avait l'histoire du gène, mais là maintenant, avec un simple test de salive, à quel âge on peut vraiment être capable de prédire les risques de cancer pour une femme en procédant à ce test de salive-là selon vos recherches?
Donc, c'est très important. On sait qu'il y a un cas de cancer, un cas sur six de cancer du sein va être diagnostiqué chez une femme de moins de 50 ans. Et actuellement, le programme de dépistage débute à 50 ans, de 50 à 69 ans. Ouais. Donc, avec ce test-là, par exemple, une femme pourrait avoir un test de salive, déterminer la signature génomique, par exemple à 40 ans, comme j'ai mentionné. Et là, si elle est à risque élevé, il y a un faible pourcentage, mais si elle est à risque élevé, elle pourrait tout de suite commencer d'avoir accès aux techniques de dépistage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va être capable d'identifier des femmes qui ont, par exemple, au lieu d'avoir une chance sur 8 de développer un cancer du sein au cours de la vie, d'avoir une chance sur 4, donc presque deux fois plus de risques. Et là, elles seraient éligibles pour avoir accès à d'autres techniques d'imagerie, comme les technologies d'imagerie par résonance magnétique qui sont plus sensibles, surtout chez les femmes jeunes. L'avantage, donc, on pourrait débuter chez des femmes plus jeunes, avec des technologies plus sensibles, plus sophistiquées, mais aussi chez les femmes un peu plus âgées, si elles sont à risque élevé, on pourrait adapter la fréquence des mammographies. Donc, au lieu d'avoir des mammographies aux 2 ans, elles pourraient avoir des mammographies annuelles. On pourrait éventuellement imaginer que le 10 ou 12 % de femmes qui ont un risque nettement plus faible, donc 3 fois plus faible que le risque moyen, pourraient peut-être avoir des mammographies aux 3 ans. Donc, c'est un peu l'avantage de cette approche-là.
Alors, ça vient un peu, mettre dans un certain spectre des femmes qui sont plus à risque et les autres qui sont à faible risque au lieu d'engorger les bureaux des médecins puis peut-être d'y aller trop souvent. On pourra peut-être amoindrir leur mammographie. On comprend très bien ça. Est-ce que c'est reconnu partout, ça, maintenant, ou ça vient tout juste de sortir? Expliquez-nous.
Je pense que c'est un point important. Nous, on a obtenu une subvention importante. Ben, ces travaux-là qui ont été publiés au cours des derniers jours faisaient suite à un programme de recherche que je dirigeais depuis 5 ans, impliquant mes collègues sur la scène internationale et surtout mes collègues de l'Université de Cambridge. Et là, on vient d'avoir une autre subvention pour tester qu'on appelle une étude de préimplantation. Donc, on va tester chez 5000 femmes au Québec et 5000 femmes en Ontario qui participent au programme de mammographie ou qui ont eu une mammographie, de voir l'efficacité, l'acceptabilité la faisabilité d'implanter une telle approche dans le contexte de dépistage populationnel pour les femmes en général. Et on peut imaginer aussi qu'il y a des enjeux organisationnels qu'on va devoir évaluer. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des données probantes dans le monde réel pour être capable de fournir ces informations-là aux décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre des décisions basées sur des évidences.
Et ça va commencer quand, ça?
On commence le recrutement dès le printemps. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et l'autre volet à votre question, c'est qu'on a partagé nos résultats sur cette signature génomique-là. Et nos collègues d'Europe ont eu simultanément démarré une étude aussi chez près dans 6 pays. Donc, la même avec un protocole un peu différent, mais la même idée est d'arriver avec un dépistage basé sur le risque individuel, les catégories de risque individuel, plutôt que d'être essentiellement basé sur l'âge.
OK, ma dernière question. Est-ce que si vous avez fait cette découverte-là dans le cadre du cancer du sein chez la femme, est-ce que ça ne pourrait pas être fait pour d'autres cancers également de la même façon?
Ben, on peut tout de suite imaginer, et mes collègues, surtout au Royaume-Uni, travaillent d'arrache-pied à ce niveau-là. Ils ont commencé des études pour le cancer de la prostate. Et cette signature génomique-là est encore plus parlante pour le cancer de la prostate. Ces fameuses variations communes, fréquentes, lorsqu'elles agissent, lorsqu'on les combine, cette information-là, c'est encore plus probant. Donc, ça va être couplé à d'autres tests. Donc, pour le cancer de la prostate, mais cette analyse-là qu'on a effectuée chez des centaines de milliers de femmes, on avait développé un outil il y a 5 ans et on avait travaillé de concert avec mes collègues sur la scène internationale et on s'est intéressé au cancer colorectal, cancer du poumon, cancer de l'ovaire et, comme je viens de vous le mentionner, cancer de la prostate. Donc, c'est 600 000 personnes qui avaient participé à ce moment-là aux études. Donc, on peut imaginer que une telle approche, on parle d'un échantillon de salive, finalement, c'est pour extraire l'ADN. Mm-hmm. On pourrait prendre un échantillon sanguin, mais c'est beaucoup plus simple parce que la femme pourrait être à la maison puis envoyer son échantillon de salive par la poste. Dans notre étude de préimplantation, ça va être un laboratoire à Toronto, à University Health Network, qui va effectuer le test génétique, mais ça va être, ils l'ont développé pour qu'éventuellement ça soit facilement transféré dans d'autres laboratoires à travers le Canada.
Monsieur Simard, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Bravo encore une fois pour l'excellent travail, l'excellente recherche. On comprend pas toute la complexité de tout ça, mais on est surtout content de savoir que maintenant, on a des outils qui vont permettre de peut-être prévenir les risques de cancer du sein et qui sait peut-être un jour aussi étendre ça à d'autres cancers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
Merci, M. Langevin.
Monsieur Jacques Simard, il est professeur titulaire département de médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada en oncogénétique. Wow! Une belle avancée en recherche chez nous au Québec, en collaboration avec des gens d'un peu partout, notamment en Angleterre. Si vous êtes une femme, vous avez entendu ça, il y a de l'espoir de détecter vos risques de cancer plus jeunes et mieux. Restez avec nous, on vous revient dans quelques instants à Que l'Outaouais se lève.